France Culture. Bonjour Diane Curis.
Bonjour Caroline.
Après les parents, les enfants, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler de vous, de votre point de vue, peut-être aussi du point de vue de votre sœur, puisque vous deux êtes très présentes dans les quatre films autobiographiques que vous avez réalisés, et en particulier les enfants, on en voit beaucoup dans La Baule des Pins, on en voit dans Diabolomante. Il y a beaucoup d'enfants, en tous les cas, dans La Baule des Pins, dans Diabolomante, c'est des bandes d'enfants.
Oui, et d'ailleurs, à une époque, j'avais envie, avant de faire La Baule des Pins, j'avais envie de faire un film avec uniquement des enfants. J'avais commencé à l'écrire, ce film. Et puis, il y a eu un film de Alan Parker qui s'appelle Bugsy Malone, qui est fait exclusivement avec des enfants. Et j'ai vu ce film et je me suis dit, non, ça va pas être bien. J'ai eu besoin qu'il y ait un contrepoint avec des adultes. C'est-à-dire raconter une histoire uniquement du point de vue des enfants, ça me fascinait, ça me passionnait. Et puis, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, non, il faut qu'il y ait le contrepoint. Il faut que des adultes vivent quelque chose pendant que les enfants innocents ne le comprennent pas ou le comprennent à moitié. Voilà, c'est comme ça qu'est venu Diabolo. Mais oui, j'aime bien diriger des enfants parce que, justement, on ne les dirige pas. On les met en situation et il y a une pureté. Ils jouent naturellement. Et comme j'ai commencé avec Diabolo et que Diabolo, c'était des petites filles qui avaient entre 12 et 15 ans, c'était pas vraiment que des enfants, c'était des adolescentes. Mais j'ai aimé ça, j'ai aimé les mettre en situation et les laisser un peu en liberté, tout en ayant un texte appris, etc., etc. Non, j'ai pas trop de difficultés avec les enfants. Et puis ils sont merveilleux à l'écran, surtout ils bouffent l'écran, ils prennent la lumière, ils sont quand les enfants sont bons, ils sont au-delà de bons. C'est fascinant de diriger des enfants, oui, c'est très agréable. C'est difficile, c'est compliqué parce qu'on les maîtrise pas, mais c'est très agréable.
En même temps, ça part de vous, en l'occurrence, dans La Baule des Pins. Vous avez, dans le film, la petite sœur, elle a 10 ans. En vrai, vous en aviez un peu moins, mais c'est pas grave. Et dans Diabolomante, c'est toujours vous, la petite sœur, hein, de toute façon.
Oui, oui.
Est-ce que ça veut dire que vous avez dirigé en vous replongeant dans vos propres souvenirs de cette enfance, c'est-à-dire le lycée Jules Ferry dans les années 60, qui était encore un collège de filles à l'époque. C'est la toile de fond de Diabolomante, par exemple. Est-ce que vous avez raconté cette atmosphère, ces scènes, ces situations aux enfants qui tournaient avec vous pour que vous puissiez retrouver ce que vous aviez, vous, vécu?
C'est à l'écriture, en écrivant le scénario, par exemple, de Diabolomante. En fait, le scénario de Diabolomante, il a été facile à écrire parce que j'ai fait une liste de scènes. J'ai écrit, les scènes dont je me souviens. Je me souviens du professeur de... C'était pas un professeur de dessin, c'était un professeur de couture qui nous torturait, qui était vraiment une sadique horrible. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai rencontré des femmes de mon âge qui m'ont dit « Ah, c'était cette femme-là, monstrueuse, professeur de couture, elles l'ont reconnue ». Donc, j'ai écrit des scènes, des listes et des listes. Et il y avait, je sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine de scènes dont je me souvenais. Le professeur de mathématiques dont on se moquait, le professeur de gymnastique, etc. Et en écrivant les thèmes des scènes, puis après en développant des dialogues et une situation, les petites actrices, elles ont lu le scénario et elles ont compris. En plus, j'étais pas si loin de mon enfance quand j'ai fait Diabolomante. C'était 15 ans après. Donc, c'était frais.
1977.
C'était proche. C'était frais dans ma mémoire. Et d'ailleurs, toute l'histoire de Diabolomante a été fabuleuse parce que je ne pouvais pas imaginer de tourner ailleurs qu'au lycée Jules Ferry. C'était là où j'avais passé toutes ces années. J'étais entrée en sixième à Jules Ferry. Ma sœur y avait fait sa scolarité. Et donc, je suis rentrée un jour au lycée Jules Ferry. J'avais écrit le scénario. Et on m'a prise pour une élève. Évidemment, j'avais 27 ans. On m'a dit, mademoiselle, où est-ce que vous allez? J'ai dit, je vais voir la directrice. Et je suis allée voir la directrice avec un culot incroyable. Et je lui ai dit, j'ai écrit un scénario et je voudrais tourner le film ici. J'y allais au flanc, toute seule. Pas avec un assistant, un régisseur. Enfin. Et puis, c'était mon premier film. Je savais même pas comment on faisait. Et elle a été géniale. Et elle m'a dit, vous avez été élève ici, etc. J'ai raconté ma vie un peu. Et elle m'a autorisée à tourner. Elle m'a dit, cet été, si vous voulez tourner, évidemment, on va fermer mi-juillet. Et je vais me débrouiller pour que vous ayez l'autorisation. Et elle m'a autorisée. Donc, j'avais mon personnage principal. Et ça a été merveilleux. Rien que ça. Et j'étais vraiment comme un apprenti sorcier, je savais rien. J'avais été comédienne, donc j'avais vu de l'autre côté comment on faisait, vaguement, plus ou moins. Mais là, l'aventure de Diabolomante, c'est vraiment un apprentissage sur le tas et formidable. Et puis après, j'ai trouvé mon producteur. Enfin, ça a été toute une... Là, je vous parle de Diabolo seulement, mais les petites filles de Diabolo Monde, c'était que des petites filles que j'ai rencontrées pendant un mois ou trois semaines pour le film, pour et faire de la figuration et jouer un rôle. Et puis ensuite, on s'est retrouvées. Elles étaient comme en vacances pendant un mois d'août dans ce lycée qui était devenu notre paradis, puisqu'on avait le droit de monter sur les tables, on allait dans toutes les salles de classe, on faisait ce qu'on voulait, c'était chez nous. Et pour moi, c'était comme une revanche formidable, merveilleuse. Je venais tourner les scènes où j'avais souffert, parce que je n'étais pas très heureuse dans ce lycée pendant mon enfance. Je n'étais pas une très bonne élève. Je n'avais pas aimé ces années-là. Et donc, je venais me venger avec des petites filles qu'on mettait toutes en blouse beige. Elles avaient dû coudre elles-mêmes, broder elles-mêmes leur nom en rouge sur la... Parce qu'on n'avait pas assez de couturières, on n'avait pas assez d'argent. Donc, on avait dit, vous allez avoir votre blouse et puis... vous reviendrez pour le tournage avec votre nom et le nom de la classe. Et elles étaient toutes revenues. Et à l'époque, quand je tournais, il n'y avait plus de blouse beige dans les lycées. Mes 68 étaient passés par là. Et d'ailleurs, quand j'étais rentrée la première fois pour aller voir la directrice, on fumait dans les couloirs après 68. Maintenant, c'est fini, hein. Mais à l'époque, le lycée était devenu mixte et il y avait des gamins dans les couloirs qui fumaient des cigarettes. Moi, j'étais hallucinée. Donc, il y a eu tous ces changements, etc. Mais moi, mon exutoire, mon moment... favori de mes souvenirs de tournage, c'est en effet Diabolo Monde, mon premier film. Je ne me rends même pas compte que je suis en train de faire un film. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. J'imagine pas une seconde que le film va avoir du succès. Je sais même pas comment il va sortir. Et donc, je fais ça avec plaisir, avec une jubilation formidable. Et les petites filles, Éléonore Clarvagne, qui a fait le succès de Diabolo Monde, que je revois encore aujourd'hui, elle me raconte la jubilation que c'était pour elle. Elle avait 13 ans, de courir avec ses... Elle se cachait tout le temps, on ne les trouvait jamais. Moi, j'avais oublié. L'autre jour, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle me dit, on se cachait, on allait se planquer dans les classes, dans le réfectoire, pour que vous ne nous trouviez pas, vous, avec les assistants. Et c'était pour nous, c'est un souvenir merveilleux pour elle. Donc, ça a été un tournage très, 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 très heureux.
Un tournage heureux, ouais. Ça vous a propulsé sur la scène du cinéma, parce que ça a été un succès énorme ouais. Pour un premier film en 1977. Le film a fait plus de 3 millions d'entrées. Il a gagné le prix Louis de Luc. Bon, on va laisser ça pour la fin de cet épisode parce que pardon. J'aimerais bien qu'on replonge... Non, au contraire. Mais j'aimerais bien qu'on plonge justement dans ces 15 ans avant, en arrière, dans ces années-là que vous avez commencé de nous redire, Diane Curie, en 1962-63, quand justement vous avez l'âge de la petite Éléonore Clarvagne, en vrai, que vous êtes la vraie petite Diane, au lycée Jules Ferry à Paris, au tout début des années 60, avec votre mère, qui a donc ouvert une boutique de vêtements pour femmes, et puis ces années où d'adolescence où vous n'êtes pas très bien, jusqu'à ce que vous rencontriez Alexandre Arcadi, qui va devenir votre compagnon, et avec qui vous vous envolez pour Israël dans un kibboutz. Alors là, tout d'un coup, on perd un peu la Diane.
elle suit son petit bonhomme de chemin. Les années du lycée, donc j'entre en 6e, on habite rue d'Henri-Raymond dans le 18e, donc tous les jours, je fais le chemin du bout de la rue d'Henri-Raymond, presque à ordinaire. Je traverse le pont Caulaincourt tous les matins, je reviens tous les soirs. Au lycée, je mange au réfectoire. Ma sœur a laissé une trace au lycée, à la fois d'une élève dissipée, un peu chef de bande. Donc les profs m'aiment pas. Et j'ai le sentiment que je suis pas aimée dans ce lycée. Je suis une élève moyenne, je commence en lettres modernes, puis en quatrième, je commence à faire du latin. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. Et toujours avec ce sentiment de ce qui m'arrive, je le raconterai un jour, je me vengerai de tout ce qu'on me fait vivre là. Bon, ma mère a une petite boutique, on appelait ça des boutiques de frivolité. Elle fait de la confection pour femmes. Elle a un petit magasin vers la place de l'Opéra. Et elle s'occupe pas beaucoup de nous, c'est-à-dire qu'elle travaille toute la journée. À ma sœur, on confie l'autorité sur moi. Donc ma sœur en profite, évidemment, comme les enfants ne savent pas mettre de limites. Elle est très autoritaire avec moi, j'ai peur d'elle, je l'aime et je l'admire. Je voudrais lui ressembler et en même temps, elle me fait du mal. Donc c'est une enfance pas très heureuse, très chaotique finalement. Donc je suis malade tout le temps, j'ai des migraines, je suis en permanence chez les médecins, on ne comprend pas ce que j'ai. Voilà, ça jusqu'à... Je vais aux éclaireuses de France pour me sauver de justement de cet univers féminin de la maison, et pendant 2 ans, je deviens scout, et puis un beau jour, je rentre dans un mouvement de jeunesse, et là, ce mouvement de jeunesse, c'est un mouvement sioniste, et qui prône le retour à Israël, et moi, je tombe amoureuse d'Alexandre, et mon idée, c'est, je vais partir avec lui, et je fais ma première fugue, la vraie, la grande, à 15 ans et demi, je quitte la maison, et je pars à Lyon chez mon père est resté à Lyon, voilà, et je me retrouve à Lyon, aidé par ce mouvement de jeunesse qui fait qu'on peut manger. Et puis, le but, c'est de nous envoyer en Israël, dans un kibboutz. Alors, moi, j'adore l'idée du kibboutz parce que...
C'est la communauté.
C'est la communauté, c'est mai 68 avant l'heure, c'est retour à la terre, l'agriculture, on va cueillir des oranges, voilà. Et on part, tous les deux, et j'ai 16 ans et demi, 17 ans, et on part pendant un an. Et arrive la guerre des six jours, éclate la guerre des six jours pendant qu'on est au kibboutz, et là c'est terrible. Là j'écris des lettres désespérées à ma famille, que je n'envoie jamais d'ailleurs, que j'ai gardées, dans lesquelles je dis je vais mourir et je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'on avait une trouille, mais c'est au-delà de la peur. Il y avait les mirages syriens qui passaient au-dessus de nos têtes. On avait creusé des tranchées devant nos maisons pour se protéger en cas de bombardement, mais c'était des tombes. On avait vraiment l'impression qu'on creusait nos tombes, quoi. Et moi, je passais mon bac. J'avais décidé, pour faire plaisir à ma mère quand même si j'étais partie au kibboutz, j'avais promis de passer mon bac philo en Israël, donc au lycée français de Tel Aviv. Et puis le jour du bac, c'était le 6 juin, et c'est le début de la guerre. Donc le bac est annulé, et toutes mes révisions tombent à l'eau. Je me dis, c'est quand même pas possible. Et finalement, le bac, comme la guerre a été très courte, comme vous savez, et qu'elle a duré 6 jours, le bac a été reporté un mois plus tard, et j'ai passé mon bac au lycée français de Tel Aviv. Et je l'ai eu. Curieux, hein. Et donc... À la fin de cette guerre des six jours, qui a été quand même très marquante pour nous, parce qu'on a visité les territoires occupés, on s'est dit, mon Dieu, mais quelle horreur. Enfin, c'était compliqué. Hein, mais bon, on connaissait bien la situation géopolitique de l'époque, donc je la connais bien aujourd'hui dans ce qui se passe maintenant. Et on est revenu en octobre de la même année, enfin de 67, et on est rentré à Paris. On a quitté le kibboutz en se disant qu'on voulait faire du théâtre, qu'on voulait être acteur. Et lui et moi, et on est arrivés à Paris. Je suis revenue chez ma mère, qui, avec ma sœur. Ma mère avait déménagé, mais ma sœur habitait toujours dans l'appartement. Pendant un temps, on a partagé l'appartement, voilà. Et puis là, je suis devenue institutrice pendant quelques temps, parce que j'avais mon bac, alors j'avais le droit d'être institutrice remplaçante. Alors j'ai fait toutes les banlieues nord de Paris, Courbevoie, Stein, La Courneuve, enfin tout ça, Saint-Denis. Et pour gagner ma vie. Et puis ensuite, on a fait des auditions pour devenir acteur. Et...
Mais ça sortait d'où, cette idée de devenir comédienne ?
C'était assez ancien. J'avais un jour écrit un petit mot que ma sœur avait trouvé. J'avais écrit sur un bout de papier « Je jure qu'un jour, je serai célèbre ». Et j'avais caché ce papier dans la doublure d'un manteau. Et elle l'avait trouvé. Et ça m'avait tellement humiliée qu'elle brandisse ce papier... qui était ma promesse, la promesse que je me faisais à moi-même de devenir célèbre, que je pense que je me suis battue pour lui prouver qu'elle avait tort de se moquer, quoi. C'est comédienne qui m'est venue, je crois, en premier.
En tout cas, ça devient une idée fixe.
Ah, ça, oui, c'est ça.
Et vous rencontrez Marie-Hélène Dastet à Aubervilliers, à ce moment-là?
Et je fais une audition, je passe une audition pour entrer dans une troupe de théâtre qui présente, c'est des spectacles qu'on joue à Aubervilliers surtout, et je joue dans cette pièce qui s'appelle Glomoël et les pommes de terre, qui est écrite par des enfants.
C'est pour des enfants,
justement. C'est pour des enfants, et c'est écrit par des enfants. Ouais, des enfants des écoles. Et donc, je fais ça, je commence comme ça, avec cette troupe de théâtre. Puis ensuite, je rentre chez Renaud Barrault. Et je joue
d'abord chez Solange Sicard, non?
Je vais dans un cours de théâtre, oui, chez Solange Sicard, oui, absolument, qui avait un cours dans son appartement dans le 9e. Oui, c'est d'audition en audition, je finis par devenir comédienne. Et alors après, je fais pendant 8 ans un peu de télévision, pas mal de théâtre, un tout petit peu de cinéma. Voilà, j'ai un agent, je me fais engager à gauche, à droite, en pensant que ça va être ça ma vie. Et donc, c'est toute une partie de ma vie que, ensuite, j'ai oubliée, mais j'ai rencontré plein de gens, plein d'acteurs.
Plein de copains de théâtre qui ensuite vont jouer dans vos films, d'ailleurs.
Qui joueront dans Diabolo, absolument.
De troupe et de communauté.
Absolument.
Bande.
Absolument. C'est eux que j'engagerai en premier pour jouer les profs, parce que c'est des gens que j'ai connus.
Donc voilà. Vous jouez avec Antoine Bourseiller, vous jouez à la cartoucherie avec Ariane Nouchkine, vous êtes bien sûr dans la compagnie de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, et puis au Café de la Gare, où vous rencontrez quand même pas mal de gens, hein. Il y avait, oui, Coluche, il y avait Miu Miu, il y avait Patrick Devers, toute la troupe du Splendide.
Il n'y avait plus Coluche au Café de la Gare quand j'y suis rentrée, j'ai remplacé Miu Miu qui partait tourner avec Simone Signoret un film, et j'ai rencontré les gens du Splendide, oui, qui commençaient
là. Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, tout ce petit monde.
C'est à eux que j'ai demandé, justement pour Diabolo, les fameux gags que le producteur m'avait demandé d'ajouter.
Comment
dans
ça
le scénario. Quand j'ai fait Diabolomante, pardon, je saute d'un... du Coq à l'âne. Quand j'ai fait Diabolomante, le producteur que j'avais trouvé, qui était un imprimeur, qui n'était pas du tout un producteur, qui voulait produire son premier film, il m'avait dit, oui, j'aime bien l'histoire, mais alors, faudrait rajouter des gags, faudrait que ce soit drôle, comme un film des Charlots, qui ait des gags. Alors, je dis, des gags, mais comment je vais trouver des gags? Alors, j'avais appelé mes copains du Splendide, et j'ai dit, je vous invite à dîner, et racontez-moi des gags que vous avez faits au lycée, parce qu'ils étaient au lycée ensemble. Et donc, là, ils m'ont donné 4 gags. Ils se sont rappelés. Ah, le jour où on avait fait ça, le jour. Et les 4 gags sont dans Diabolomante. C'est la prof de maths qui se fait, on lui met une craie dans l'éponge, et quand elle efface le tableau, il y a une craie qui crisse. C'est la prof de maths toujours qui, quand elle entre dans la classe, la poignée de la porte lui reste dans la main. C'est la prof de gym qui se coince le bâton dans le dos. Tous ces gags qui sont dans Diabolo, je les ai faits à la demande du producteur. J'aurais dû donner les droits d'auteur aux gens du Splendide, j'ai jamais fait. Je l'aurais juste payé à manger. Mais toute cette époque est une époque assez marrante. Les acteurs, à ce moment-là, on se retrouvait tous à la Coupole le soir, on allait dîner.
Et c'est comme ça. Une grande brasserie parisienne.
Voilà, et c'était l'endroit où, à partir de 11h du soir, les acteurs, les comédiens de Paris se retrouvaient, dînaient, et on refaisait le monde. Et c'est là que j'ai connu Patrick Devers et toutes ces bandes d'acteurs. C'était comme une espèce de. Oui, de microcosme, on savait qu'on allait rencontrer les gens là.
Vous dites, Diane Curis, que toute cette aventure de comédienne, d'apprentie comédienne, a duré 8 ans. Pourquoi pas plus?
Bah parce qu'au bout de 8 ans, peut-être que j'en ai eu marre un peu avant, j'ai tout à coup réalisé que je n'aimais pas ce métier, je n'aimais pas faire ça, je n'aimais pas attendre que le téléphone sonne, je n'aimais pas... En tout cas, la célébrité que j'avais cherchée ou la connexion avec le public, je me suis dit, ça ne viendra pas par là. Donc je me suis dit, il faut que je change, il faut que je bouge, il faut que je fasse autre chose. J'étais frustrée tout le temps, en permanence. J'étais pas heureuse, quoi. Et donc j'ai commencé à écrire.
Ce que vous envisagiez, c'était de toute façon toujours de rester dans ce monde-là, télé, cinéma, théâtre, ou vous ne saviez plus
du tout ? Je savais plus du tout. Et j'ai commencé à écrire quelque chose qui était comme le début d'un roman qui racontait mon enfance et mon adolescence.
Et c'est devenu Diabolomante.
Voilà.
Avant de passer à Diabolomante et à ce formidable succès qu'a été le film, en plus c'est un succès générationnel, mais... dans ce que vous avez joué, alors films pour la télévision, des pièces de théâtre et des films pour le cinéma, je pense à Poil de carotte en 1973, Elle court la banlieue en 1974, F comme Fairbanks en 1976, et puis vous avez tourné dans le Casanova de Fellini. J'ai cru comprendre que c'était sans doute ce film-là qui vous restait comme un grand souvenir, même si ça n'a pas été beaucoup de minutes au final.
Oui,
vous avez passé un mois en Italie.
J'ai passé un mois à Rome, oui. C'est une histoire folle, parce que quand on vous dit « Fellini veut vous voir », on croit que c'est une blague, évidemment. Et c'est mon agent, j'avais un agent qui m'a appelé un jour, il m'a dit « Bon, t'as un rendez-vous avec Fellini à l'hôtel Georges V, dans les salons. » Alors je suis allée, je l'ai vue, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour attirer son attention, parce qu'il regardait mes photos et il ne me regardait pas. Alors je me suis dit, mais si je dis rien, il ne va rien se passer. Donc je l'ai interrompu dans son regard de mes photos, j'ai dit, oh là là, je suis très déçue. Comme il parlait français, il a levé les yeux, il a baissé ses lunettes, il a dit, mais pourquoi? J'ai dit, je suis très déçue, parce que demain je vais dire à mes copains que j'ai vu Federico Fellini. Et ils vont me dire, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais dire, rien. Alors que ça l'a piqué, évidemment. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette petite nana-là qui me provoque? Et ça a dû lui rester. Et un mois plus tard, j'étais en vacances et mon agent m'a envoyé un télégramme en disant, tu tournes avec Fellini, tu dois être à Rome, telle date. Je savais absolument pas ce que je tournais. Alors, j'avais 3 jours de tournage dans ce film, dans ce Casanova de Fellini, voilà. Je suis arrivée à Rome, il m'est arrivé des tas d'aventures et je suis restée un mois pour tourner 3 jours parce qu'il changeait d'avis tous les jours, il changeait de plan de travail tous les jours et c'était une gabegie absolument phénoménale. C'était les dernières années, on va dire, de Fellini où il avait tous les moyens de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire il faisait venir les gens, puis les gens ne tournaient pas. Enfin, c'était très 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 curieux, mais moi, j'ai vécu un mois fabuleux en même temps, à Rome, mais très solitaire parce que c'était le mois d'août. J'étais à l'hôtel d'Angleterre et tous les jours j'attendais qu'on m'appelle pour tourner. Et voilà, il y a un petit extrait de cette histoire-là dans mon dernier film d'ailleurs.
Dans le film Moi qui t'aimais.
Il y a une petite comédienne qui dit j'ai tourné avec Fellini, c'est moi la comédienne. Voilà. Ah, il y en a partout des traces.
Il y en a un petit peu partout des traces de Diane Curis. Mmh. Cela dit, ça a peut-être achevé cette histoire de vous convaincre qu'il fallait que vous passiez de l'autre côté. Alors, à ce moment-là, c'est pas de l'autre côté, puisque vous disiez, Diablemente, c'était d'abord un roman autobiographique, en tous les cas, le début d'un roman autobiographique. À quel moment c'est passé d'un roman à un scénario ?
C'est Alexandre, je pense, c'est lui. Enfin, c'est lui qui revendique aujourd'hui cette paternité-là. Il me dit, c'est lui qui m'a dit d'en faire un scénario. Je me souviens plus très bien, mais à un certain moment, c'est devenu évident que c'était plus intéressant d'en faire un film parce que c'était un film sur les filles, sur les lycées de filles, sur les ce monde où il y avait que des femmes, etc. Et c'était assez original en fait de le faire. Bon, je savais pas du tout ce que ça allait donner, donc j'ai transformé mon début de roman. Il y avait 30 pages de roman, et j'ai dit voilà, ça va se faire. Alors, et ça, c'est Alexandre en revanche qui m'a donné le début et la fin. Il m'a dit, tu commences aux vacances et tu termines aux vacances, tu fais une année scolaire. Là, je lui dois ça. Et en effet, j'ai fait une chronique finalement de toute une année scolaire, des vacances aux vacances. Voilà ce qui va se passer pour ces deux petites filles qui vont au lycée Jules Ferry, dont la mère travaille et qui s'entendent et qui s'entendent pas. Voilà, c'est leurs aventures à elles au lycée Jules Ferry.
Donc, c'est devenu un scénario, mais alors. L'idée est un peu folle. Vous avez 27 ans. On est en 1975-76, puisque le film est sorti en 77, c'est ça ?
Oui, mais on est en 77 parce que le film a été monté très vite. Et dans la même année, j'ai obtenu l'avance sur recette. La deuxième fois que je l'ai présenté, la première fois, je ne l'ai pas eu. Donc, quelquefois, les gens passent à côté. Hein. J'ai eu l'avance sur recette la même année. Et il est sorti la même année. C'est-à-dire que j'ai eu l'avance sur recette, je crois, en mars. Et le film est sorti en décembre.
Ah oui.
Ça allait très vite. Hein.
Ça allait très vite.
C'était monté rapidement.
Et alors, vous avez improvisé tout, puisque vous ne saviez pas faire ce que vous commenciez de nous dire tout à l'heure.
Mais c'est-à-dire, j'ai eu la chance de...
Mais vous aviez quand même tourné dans des films, vous aviez vu comment ça se passait quand même.
J'étais, oui.
Le fait d'avoir été comédienne vous a sûrement aussi aidé à passer de l'autre côté.
Le fait d'avoir été comédienne m'a certainement aidé à écrire des dialogues. C'est-à-dire, même si j'avais pas joué énormément, je savais quand même, j'avais fait du théâtre, donc je savais quand même ce que c'était que d'être un acteur, de jouer un rôle, de dire des mots, des phrases, d'avoir des émotions. Tout ça, je savais. Ce que je savais pas, c'était la technique, je savais pas l'organisation d'un tournage, ce que ça implique. Alors, tout ça, je l'ai appris sur le tas, effectivement. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai, alors c'est, voilà, c'est une succession de chances, c'est comme ça, c'est une succession de hasards, de coïncidences et de chances. Qui font que je me suis entourée d'une équipe formidable. Je ne le savais pas à l'avance. Et je me souviens, j'avais engagé un assistant que je ne connaissais pas. Donc, il fallait que je cherche un chef opérateur. Et moi, je ne connaissais pas bien les chefs opérateurs. Donc, on écoutait des gens. Est-ce que vous avez des noms ? Alors, un jour, on nous avait donné le nom d'un Brésilien qui était un formidable nouveau chef opérateur qui venait d'arriver sur la place de Paris. Donc, on nous avait dit, il y a un film qui passe à l'Olympique Entrepôt chez Frédéric Mitterrand. Allez voir le film. Donc, on était en retard, on a pris le métro, on est arrivé, on s'est installé au fond de la salle. Le film était déjà commencé. Et j'ai vu, avec mon assistant, tous les deux, on a vu un film absolument éblouissant. L'image était d'une beauté fracassante. Et j'ai dit, mais c'est formidable, c'est formidable. Et quand le générique a défilé, c'était pas du tout le Brésilien qui avait fait le film. On s'était trompé de salle. On avait donc vu un autre film. Et là, il y avait écrit chef opérateur Philippe Rousselot. Alors, j'ai dit, je veux Philippe Rousselot, évidemment. Donc, on a cherché Philippe Rousselot. Et c'est lui qui a accepté de faire le Diablemente. Et il a été absolument merveilleux, parce qu'il avait fait quelques films avant. Avant, moi, c'était mon premier. Et il a compris. Je me souviendrai toujours de la veille du tournage. C'était un dimanche, on tournait le lundi comme toujours. Et je l'appelle et je lui dis, Philippe, je ne sais pas si je suis capable de venir demain. J'ai trop peur. Je ne sais pas si je suis en état de faire ce film. Vraiment, j'ai peur. Il m'a dit, bon, alors, il m'a donné rendez-vous au café d'en face du lycée. Le dimanche après-midi. Donc, on s'est retrouvés. Et là, il a été merveilleux. Il m'a dit, écoute, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, c'est moi qui ai peur. C'est à moi d'avoir peur. La peur, tu nous la laisses à nous, les techniciens, ceux qui vont t'entourer. Toi, tu as juste à essayer de nous expliquer ce que tu as dans la tête. Et c'est notre boulot de comprendre. Et c'est notre faute si on ne comprend pas. Donc, pas de peur, aucune peur. Jette la peur. Donc déjà, ça m'a aidé à dormir le soir. Et puis le lendemain, quand je suis arrivée au lycée, dans la cour du lycée où j'avais passé ces années pénibles, je n'aimais pas ce lycée, je n'aimais pas cette cour, il y avait la caméra. Il y avait une caméra, une vieille Arri BL de l'époque. On tournait avec ces caméras-là. Et je suis arrivée 2 heures avant le tournage. Il m'a dit, viens. Et puis là, Alors, on avait 3 objectifs. Alors, il m'a dit, voilà, je vais te montrer les objectifs. Tu vas coller ton œil là, Alors, colle plus fort, parce qu'il faut coller fort, sinon tu verras rien. Donc, je collais plus fort. Il m'a dit, voilà, ça, c'est un 50. Tu vois, regarde. Et puis, si on va à gauche, si on va à droite, là, on panote. Il m'a montré ce qu'on voyait, ce que je n'avais pas vu quand j'étais comédienne, dans le hueton de la caméra. Et puis, il m'a dit, voilà, ça, c'est un 75. Voilà. On n'a que trois objectifs. Hein, de toute façon, t'auras pas tellement le choix. Ça, c'est le 75. Alors, regarde, tu vois, colle bien ton œil. Il m'a, en fait, ce jour-là, montré ce que j'allais filmer, comment j'allais le filmer, et puis il s'est mis à...
Précieux.
Ah, mais c'était précieux comme tout. Et surtout, je me suis dit, il faut surtout que je triche pas. Je ne sais pas. Bah alors, quand je sais pas, je dis je sais pas. Et on a eu, comme ça, une entente avec l'équipe, Bernard Aubouy qui était au son, tous les gens qui étaient là. Bah, en plus, les gens, les techniciens, ils adorent les premiers films parce qu'ils savent que la personne est innocente. Donc, ils aiment bien aider, ils aiment bien être là à la naissance de quelque chose. Et donc, il y avait ce sentiment-là. Et comme c'était aussi des petites filles qui n'avaient jamais tourné, on était vraiment dans une espèce d'innocence. La personne la plus connue du film, c'était Yves Simon. Lui, c'était une vedette.
Il a fait la chanson. Voilà. La chanson.
La chanson de Diabolomante, oui, absolument. C'était lui le plus connu. C'est aussi beaucoup grâce à lui que le film a eu ce succès, parce que la chanson a contribué, l'affiche a contribué. Éléonore Clavaigne a contribué, tout c'est comme ça, comment on dirait,
tout s'est agencé,
tout s'est formé autour de ce projet-là. On a eu énormément de chance. Et en plus, le distributeur chez Gaumont m'appelle, on était déjà au montage, et il m'appelle un jour et il me dit, écoutez, il faut que vous engagiez quelqu'un dans l'équipe en plus, parce que j'ai une date de sortie pour vous, mais c'est pas du tout l'année prochaine, en 78, c'est là, dans trois semaines, dans un mois. Le 14 décembre, je crois qu'on était en, je sais pas, novembre, fin octobre, début novembre, et il me dit, et c'est une date, il n'y a pas de film autour, et si ça marche, il y aura les vacances de Noël. Et il me dit ça à moi, et je dis, mais ça veut dire, bah, il dit, bah, engagez quelqu'un de plus, parce qu'il faut que vous sortiez le 14 décembre. C'est mon conseil. Et donc, on a engagé un monteur son qu'on n'avait pas, parce qu'on devait monter le son nous-mêmes, qui s'appelle Hervé Deluce, qui a eu des Oscars, qui est devenu un grand monteur son, et un grand monteur de films. Et on a fait le film s'est sorti le 14 décembre. Et donc, il y avait un boulevard pour nous, et c'est aussi pour ça que le film a marché.
Et 50 ans après, ouais. C'est toujours le même succès.
Mais c'est fou.
De génération en génération. Ouais. Il y a quelques films comme ça. Et la Boum. Bon,
il y a quelques films, on ne sait pas. Voilà.
Mais Diabolomante, c'est peut-être le premier, alors qu'il est, il parle d'une époque du début des années 60 et qu'il a été tourné donc en 77. Diane Curis, avec quel œil vous le regardez aujourd'hui ?
Oh, j'aime bien, je le regarde pas quand il est passé à la télé là l'autre jour, j'ai pas regardé parce que ça, je sais pas, d'abord je trouvais que l'image était pas belle, ou c'était ma télé ou c'était le diffuseur, je sais pas. On l'a renumérisé, c'est comme ça que j'ai revu Philippe Rousseau et que j'ai fait mon dernier film avec lui. Donc du premier, 50 ans plus tard, on fait le dernier. Enfin, c'est une belle histoire aussi, une belle retrouvaille. J'ai de la tendresse pour Diabolomante, d'abord parce qu'il m'a fait devenir cinéaste et je ne peux pas renoncer à ça. C'est souvent, les gens disent, ah c'est son meilleur film, ah là là. Ah, et puis il y a une nostalgie comme ça du film, donc je l'aime beaucoup. C'est pas forcément celui que je préfère de tous mes films, mais disons que j'ai une reconnaissance, voilà.
Merci pour ce deuxième épisode. On se retrouve demain avec le troisième autour de l'intime. Intime que vous avez filmé, aussi bien l'intime du couple, de la vie amoureuse, que de l'intime d'une époque. Que vous savez très très bien filmer également. À demain, bonne soirée.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Diane Curis. Réalisation Anne Pérez Franchini. Prise de son Jérôme Casamayou. Chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.